à Sion, ça c'est au temps du Machia Ben Yosef. C'est là, l'IA qui s'achève avec nous. Parce que finalement, de tous ceux qui avaient déjà décidé depuis 48 de venir viennent. Actuellement, c'est les fonds de tiroir qui arrivent un par un, hein, quelques milliers par an, pas plus. Mais les grandes vagues de l'IA, c'était depuis 48. Hein. C'est fini, ça s'achève. Bon, nous savons par tradition qu'au temps du Machia Ben David, le Machia de la résurrection, il y aura la deuxième vague. Mais qui viendra? Les Juifs? Je ne sais pas. C'est les 10 tribus. Hein. C'est une autre alia, celle des 10 tribus perdues. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors il faut garder l'espoir que tous les Juifs seront sauvés, mais c'est un espoir. Du point de vue des événements, il est bien évident que Israël existe par ceux qui l'ont créé. Et c'est fini, Israël existe par ceux qui l'ont créé. Et on a beau dire aux rabbins de l'étranger, alors, vous envoyez vos Juifs, mais nous, diaspora, placenta. Vous voyez le problème.
En fait, il peut utiliser quand même. Cette technique est certaine, mais dans la conscience, une fait dire bon, bah, les gens sont.
Attends, 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 je vais en parler. Tu as bien fait de rappeler la question. Non, je vais en parler. Non, non, je vais en parler. Je vais vous prendre 10 minutes, à condition que j'ai un verre de thé, si c'est possible. Je vais en parler. Mais je veux dire ceci, c'est. Je me demande, comprenez bien cela, si, à part quelques actions d'éclat, Ken, dont je vais vous dire une qui ne s'est pas passée. S'il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus déjà depuis les années 50, mais il y a une dizaine d'années, Ken, le grand rabbin Kaplan avait décidé la Alia, il y a 200 000 juifs de France qui seraient venus avec lui. Et j'en suis absolument certain parce qu'on en a parlé. Okay. Le grand rabbin Kaplan, l'ancien rabbin de France, okay, était le seul rabbin consistorial sioniste. Il est d'option sioniste, c'est absolument évident. Bon, il a toujours fonctionné comme un grand rabbin français, de France, mamage, avec une loyauté pour le consistoire totale, et c'est une loyauté personnelle, il y croit, okay, mais c'était le premier rabbin à l'époque quand il était juste rabbin, même sous-rabbin déjà, je me rappelle, seul qui avait le courage de faire un discours sioniste dans une synagogue du consistoire à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage. Bon. Il était bien évident, au moment du rapatriement des Juifs d'Afrique du Nord, j'ai eu plusieurs séances de travail avec lui, parce qu'il allait s'occuper de préparer l'arrivée des enfants, une histoire de fou. Beaucoup ont été parachutés à Strasbourg grâce à des Strasbourgeois qui ont loué des avions pour faire venir les enfants. Enfin, c'était notre problème. Et on discutait de cela, je lui ai dit, écoutez, monsieur le rabbin, c'est évident qu'il faut que vous décidiez la Alia. Et c'était évident que si décidait la Alia à ce moment-là, eh bien, au moins les deux tiers de la communauté, 200 000 juifs de l'époque, venaient en Israël, derrière lui. Il ne l'a pas fait. Okay. Et vous allez me dire, et ça tient à ça? Oui, oui, ça tient à ça. Okay. Je ne sais pas si vous imaginez l'identification du peuple juif dans les moments de crise, c'est ce que va dire le grand rabbin qui était énormément respecté. Okay? Eh bien, si déjà lui dit, alors peut-être que c'est vrai. Donc, vous comprenez le problème? Pas du tout. La Alia, c'est l'affaire de l'agent juif. Accord entre le gouvernement français et le gouvernement israélien. Bon, la Alia, ce n'est pas le consistoire, la Alia, c'est l'affaire de l'agent juif. Je dirais plus. Jamais de la vie, les juifs nord-africains ne devaient arriver dans les communautés consistoriales. Ce n'était pas leur type de communauté. Okay? Seulement, comme par façon de parler, c'était du vocabulaire pur et simple. En Afrique du Nord, on appelait les communautés consistoires parce qu'on parlait français. Quand ils sont arrivés en France, ils ont dit, on va au consistoire. Mais ce n'était pas du tout leur communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est depuis que le consistoire s'occupe de cacheroute. Pourquoi? Parce qu'il y a les Nord-Africains. Avant, pour pouvoir manger cachère, c'était grâce aux petites communautés orthodoxes des Polonais et des Allemands. Je me rappelle quand j'étais étudiant à Paris, s'il n'y avait pas eu le rabbin Munk de la rue Cadet, ou s'il n'y avait pas eu le rabbin Rubinstein de la rue Pavée, les Polonais et les Allemands, on ne pouvait pas manger cachère. Hein? Le consistoire, les rabbins ne mangeaient pas cachère. Et ne croyaient pas, peut-être qu'il y en avait un ou deux, j'en sais rien. Hein? Mais je me rappelle encore quand j'étais le responsable des étudiants et que je devais voyager en province. Alors, on cherchait à la loupe dans des petites villes de province, je ne vous dirai pas des noms, un juif qui mangeait cachère, en général, il n'était pas français, c'était un étranger, pour que je puisse aller manger cachère, parce que, évidemment, je ne pouvais pas aller manger chez le rabbin. Je ne sais pas si vous réalisez l'état des choses. Est-ce que c'est clair? Et alors, C'était d'ailleurs des prouesses de courtoisie et de politesse pour vexer personne. Okay. Vous voyez le problème. Bon. Je me rappelle très bien que tout de suite après la guerre, pour arriver à trouver le petit restaurant cachère Ashkenaz de Paris, il fallait passer sous les escaliers, sous la porte cochère. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, le consistoire a un budget colossal, colossal, de la cache-route des Nord-Africains. Bon, les Ashkenazis m'en ont profité, d'accord, mais ce n'était pas le consistoire qui s'occupait de ça. C'était la rue Cadet ou la rue Pavé. Et en plus, bon, le consistoire, on a des comptes à régler. Et quand ils ont été investis de la mission de la cache-route, ils ont voulu demander au gouvernement qu'eux seuls aient le droit d'avoir la cache-route, et les autres communautés, grâce à qui on mangeait cachère, ils ont voulu leur supprimer leur cache-route. Je ne sais pas si vous réalisez cette histoire. Donc, alors, revenons à notre problème. Je vous donne un autre exemple. Si le rabbi de Lubavitch aujourd'hui, le rabbin, okay, décide la Aliyah, il y a 3 millions de juifs qui arrivent. Est-ce qu'il le décidera? J'en sais rien. Okay. Et alors vous allez me dire, ça tient à ça? Oui, ça tient à ça. C'est les hommes qui représentent le peuple juif. Et le peuple juif les suivrait, disons. Pour le rabbi de Lubavitch, c'est sûr. Il a le petit doigt, on n'a plus de problème de shtachim. C'est fini. L'ONU sera obligée de dire, oui, il faut bien loger ces juifs-là. Vous comprenez un problème. Alors qu'aujourd'hui, ça arrive au compte-gouttes. Okay. Tipa-tipa. Tipine-tipine. Alors on ne sait pas ce qui peut se passer demain après-demain. Okay. Mais il est bien évident que, grosso modo, la Aliyah est arrêtée. Depuis 67. Enfin, la grande vague qu'il y a eu 67-68. Oui, c'est fini. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les efforts de la Aliyah, mais c'est la pêche à la ligne, un par un. Bon. Alors, voilà donc ma réponse. Je vais vous dire, puisqu'on parle du rabbi de Lubavitch, vous savez que, je ne veux pas qu'il y ait des choses qui restent imprécises, okay. Vous savez qu'on l'appelle le Admor, ça veut dire Admor, ça veut dire Adonai-nous, Morenu et Rabbeinu. Adonai-nous, Morenu et Rabbeinu. Admor. Et alors, moi aussi, j'ai énormément d'admiration pour lui. C'est un culte d'admiration, admirable. Et alors, à prononcer comme eux, c'est Admour. Et alors, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi le Admour, donc, non seulement n'envoie pas ses juifs, parce que quand il les envoie pour des missions ponctuelles, c'est pas la Aliyah, okay, c'est des missions, il pourrait les envoyer en Australie, il pourrait les envoyer en Afrique du Sud, il les envoie aussi à Petah Tikva ou ailleurs. Okay. Je pense que c'est clair. Bon, ceci dit, il n'y a pas de doute que son attitude vis-à-vis de l'État d'Israël n'est pas la même que les orthodoxes anti-sionistes. Ce n'est pas du tout la même. La preuve, c'est qu'il n'est pas content chaque fois qu'on rend un peu de territoire. Il dit, vous faites des gaffes énormes. Il fallait, à la guerre de Kippour, il a envoyé un message violent en disant, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous arrivez à quelques kilomètres de Damas et du Caire et vous ne prenez pas Damas et le Caire. Okay. Maman? Si, si, non, c'est autant. Okay. Alors, la question est, et il a dit, et je crois qu'il a raison, ça va vous coûter cher. Bon, et alors, il n'a pas dit ça va vous coûter cher, il dit ça va nous coûter cher. Okay. Il n'y a pas de problème. Alors la question est pourquoi il ne vient pas, même pas en tourisme. Okay. Alors, il y a une loi dans Shulchan Aruch. Quand on est en Eretz Israël, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, à moins d'avoir l'autorisation de son rabbin. Okay. Et moi, à chaque fois que je voyage, je demande l'autorisation. Des fois, on ne me donne pas, je ne discute pas. Des fois, on me donne. C'est vrai, c'est Shulchan Aruch. Okay. À moins d'une raison grave qu'il faut une décision de la halakha, est-ce que c'est une raison valable suffisante, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Vous savez pas ça? Bon, eh bien, apprenez. Je croyais que vous saviez, ça, non? Vous ne savez pas. Bon. Alors, je ne vous ai pas dit ça au début de l'année, pour ne pas vous mettre en faute. Mais maintenant, ça y est, vous savez, hein? Et alors, ça veut dire, on quitte pas Eretz Israël pour des raisons qui n'ont pas de base. Okay? Alors, chaque cas, c'est une... Donc, alors on lui a dit, tu demandes l'autorisation à ton rabbin, et puis ça y est, il n'a pas de rabbin, lui, puisqu'il a la tête. Okay. Vous voyez le problème? C'est grave. Ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre ces raisons. Et ça ne rentre pas dans les cas habituels de n'importe quel juif. Vous suivez? Alors, si vous êtes préoccupé par cela, pourquoi le Admour de Lubavitch ne vient pas en Israël? Non, mais ça veut dire que la question ne se pose pas à notre niveau. Il a ses raisons. Mystère. Attendez, je n'ai pas fini quoi. Non, lui, il est le chef de la secte. C'est pas une secte, mais enfin, du mouvement de Lubavitch. C'est lui le chef. Il n'y a rien plus haut que lui. Dans la tradition chassidique, c'est lui le plus haut. Et alors, vous comprenez, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que c'est une secte chassidique. Hein. C'est un empire dans l'empire, enfin, c'est particulier, quoi. Et c'est la plus grande, la plus forte actuellement. Attendez, oui, mais il a ses propres chikoulim. Bon, je veux dire, une fois j'étais à New York, pas pour aller le voir d'ailleurs, parce que je devais aller à New York. Je me suis dit, si déjà je vais à New York, je vais discuter avec lui, parce que ça fait très longtemps qu'on est en correspondance. Moi j'écris, mais lui ne répond pas. Mais et ce qui est très rare, il répond à tout le monde. C'est vrai, c'est connu, il répond à tout le monde. Et une fois même, une de mes lettres a été portée à la main par le responsable de France. Bon, parce qu'il y a des questions d'études. On a besoin de savoir comment, dans leur livre, eux, ils expliquent ça. Okay? Bon. Et alors, je me suis dit, bon, j'allais le voir. Et puis, finalement, j'avais rendez-vous avec son premier secrétaire, parce que lui, je savais, il était occupé ce jour-là. C'était pas un problème. Et puis, la veille du rendez-vous, on me l'a changé avec le deuxième secrétaire. Et puis, le jour du rendez-vous, on me l'a changé avec le troisième secrétaire. Alors, j'ai compris qu'il voulait pas me recevoir. Mais je voulais lui poser la question. Sauf, j'ai eu la réponse, pas directement, pas par moi, mais je vous la donne pour que vous n'ayez pas de mystère. Mais, comment dire, en sachant très bien que vous n'allez pas la comprendre. Hein. Je vous la donne quand même. Alors, la réponse est la suivante. C'est pas qu'il n'a pas de rabbin, bien sûr, la Torah, ça existe. Mais ça me rappelle une histoire qu'on raconte à propos de Jean XXIII. Avant qu'il soit pape, Jean XXIII, il avait l'habitude, je ne sais pas qu'il avait un problème grave qui l'empêchait de dormir, de s'endormir en disant « Bon, demain, je demande au pape. » Alors, une fois... et un jour, il était pape, lui. Alors, et il avait un problème qu'il ne savait pas comment résoudre. Il s'est dit « Bon, ça fait rien, je vais aller dormir et demain, je demande au pape. » Et puis, subitement, il dit « Mais c'est moi, le pape. » Bon. Alors, revenons au problème. Là, l'histoire ne dit pas. Voilà ce qu'il dit. Le retour en Eretz Israël, c'est la confrontation entre les forces de la sainteté et les forces de l'impureté. Bon. Et alors, c'est l'un à la mesure de l'autre. Dès qu'il y a une quantité de sainteté qui arrive en Israël, il y a une quantité d'impureté opposée qui se déclenche contre. Ça vient des goyim, ça vient de... peu importe. Hein? Vous voyez, il y a un conflit grave. Alors, son raisonnement est le suivant. Étant donné qu'il est dépositaire d'une grande part de sainteté du peuple juif, s'il vient, lui, il déclenche contre Israël une force opposée trop grande. Est-ce que vous avez compris cela? Je ne sais pas si vous le comprendrez, mais enfin, vous avez entendu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons. Okay? Mais ce n'était pas notre problème tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous vous posez la question, vous posez la question, mais pourquoi le rabbi de Lubavitch ne vient pas? C'est un autre problème, le rabbi de Lubavitch. Lui, il peut dire des choses comme ça. Vous voyez, c'est une hauteur qui dépasse les petits rabbins. Les petits rabbinicules qui jouent. Mais là, c'est clair. Notre problème, c'est que, effectivement, puisque vous parliez de l'Alia, si le rabbi Vizelvavich, le jour où il le décidera, lève le petit doigt et dit Eretz Israël, 3 millions de juifs arrivent ici, et pas tous Lubavitch. Ils se diront, ah, il a dit lui, c'est donc que c'est sérieux. Vous voyez le problème? C'est ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Tout à fait autre chose.
Vous trouvez dans le papa, à ceux qui ne déclenchent pas, il y a des gens qui sont dans le mouvement Lubavitch et qui ne font pas cette réaction de sainteté par rapport à...
Bon, la question que tu poses montre que la chose n'est pas si simple, j'en suis bien conscient. Mais simplement, je voulais vous éclairer un aspect du problème. Vous comprenez? Et pour vous dire, pour revenir à ce problème, c'est, après on va parler des 4/5 et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est cela, c'est que tout se passe comme si la première vague de Aliyah est arrêtée. faut pas désespérer pour les fonds de tiroir. Un juif, c'est un juif. Maintenant, la deuxième, alors je vais vous donner le verset qui est la source, et après je vous parlerai de cette règle. Vous allez prendre dans. Alors, donnez-moi. Je vous donnais, c'est dans le livre de Devarim. Je vous donnais le verset, vous le noterez, vous le. Chapitre 30. Voilà, c'est le verset 3 du chapitre 30 dans Devarim, dans Deutéronome. Je vous le lis, vous verrez simplement la réponse, mais vous étudierez le verset pour vous-même. Béchav, okay. 30, chapitre 30, verset 3. Hein? Ah, c'est celui-là? Tu es sûr? Bon. De faire des calculs, là, tu vas finir par. Tu sais, les calculs, ça gêne la foi. Ça s'appelle des calculs du foi, de la foi. Bon, alors là, le verset dit ceci: Veshav Hashem Elokecha El Shevutcha. Et Hashem, ton Dieu, ramènera ton retour. Verichamcha et aura pitié de toi. Veshav Ekibetzcha. Et il ramènera et il te rassemblera. Oui, il y a deux fois Veshav. Il y a Veshav. Et ensuite, Veshav. C'est clair? Alors, c'est l'allusion qui est donnée par la Kabbalah. Le premier retour au temps de la fondation de la nation d'Israël, Machar ben Yosef. Deuxième retour au temps du Machar ben David. Bon. Mais qui va revenir au temps du Machar ben David? Les Juifs? C'est pas. Israël, mais dans d'autres dimensions. Des choses dont on n'a pas encore parlé encore. J'apprends que dans les prières, vous dites sur nous et sur tout Israël. Qui c'est ce tout Israël? Qui c'est pas nous? Okay. Bon, je referme la parenthèse. Et ma.
Mais,
quel Gemara? La Kabbalah. Bon. Il est ici de retour. Je veux dire, tout se passe comme si le premier retour est clos. Indépendamment des quelques dossiers que nous avons par année. Okay. Une espèce de petit tri qui se fait dans un sens ou dans l'autre, ça porte sur quelques milliers par mois. Okay. Mais c'est pas ça le retour des Juifs, c'est clair. Bon. Alors, je vous parle de cette règle des 4/5, là, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Oui, j'ai parlé à tout le monde. Okay, mais je la reprends très brièvement pour Élie. Voilà, dans les trois retours, la fin de l'exil d'Égypte, la fin de l'exil de Babel et la fin de l'exil contemporain, on se heurte à la même statistique. 4/5 reste dehors, 1/5 revient. Grosso modo, c'est la même proportion. Et justement, on pourrait se demander pourquoi nous faisons la statistique maintenant et pas il y a 10 ans, pas dans 10 ans. Pour les raisons que je viens de vous dire. C'est que tout se passe comme si c'est de notre temps, les années que nous vivons, où c'est en train de se polariser deux identités juives différentes, celle des Hébreux en Israël et celle de la diaspora en diaspora. Remarquez ça. Je donne un exemple. Pour la première fois dans l'histoire du judaïsme français, il y a une formation de cadre pour le judaïsme français qui se fait en Gola, pour la Gola, sans aucun rapport avec Israël, sinon un petit voyage pour avoir dit « Yatsanu yedechovatenu », on a accompli notre devoir, 3 semaines en Israël sur 3 ans de préparation. C'est une formation de cadre pour les communautés, dans tout le genre de cadre possible et imaginable. Et pour être sûr que ce soit des cadres pour les communautés de diaspora, ils ne les forment pas en Israël. Et surtout pas à Mayanot. Okay. Mais ils ont donc trois semaines, ils arrivent dans quelques jours, il y a une quinzaine de France, c'est le joint d'Amérique qui paye ça avec un budget dont vous n'avez aucune idée. On pourrait ici bâtir une ville entière avec ce budget-là. 3 ans de formation pour 15 personnes, bon, ne leur dites pas. Hein. Ils sont mes fenêtres qui mettent en milieu. Et parce que les Américains ont intérêt à ce que la France soit encadrée, c'est les futurs cas de la génération suivante, par des Juifs français formés à l'américaine, que ce soit une satellite de la communauté américaine et pas d'Israël, vous voyez le un argent dont vous n'avez aucune. Je vous donnerai la somme, vous la croyez pas. Et ils reçoivent déjà, alors qu'ils sont étudiants, un traitement comme s'ils avaient déjà un VTEC de 20 ans. Bon. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet-là en France. Bon. Et alors alors, ils ont demandé de passer quand même un Shabbat à Mayanot. Vous allez les avoir. Pas le Shabbat qui vient, le Shabbat d'après. Alors, je serai là s'il n'y a pas de catastrophe. Mais je vous en parlerai avant pour savoir comment vous devez les accueillir. Pas à boulet rouge. violet, si vous voulez, mais en tout cas pas rouge. Bon, c'est un indice qu'il y a une cristallisation d'identité qui s'est faite. Et que ça n'a plus rien à voir avec le peuple juif revenant chez lui. Bon, ils vont s'inventer une façon d'être solidaire. Okay. Mais solidaire, ça veut dire rupture d'identité. Donc la cristallisation s'est faite. C'est clair? Et oui, et jusqu'à présent, la Sortmout et même le gouvernement d'Israël vivent dans cette illusion que renforcer le judaïsme de diaspora, ça reviendra en Israël. Okay. C'est une erreur absolue. Ils ne se rendent pas compte de cela. Qu'au contraire, renforcer le judaïsme de diaspora, c'est renforcer quelque chose qui va devenir un anti-Israël. Bon, je suis très très tranché, il faut nuancer tout ça. Okay. Une aventure qui pourrait être aussi grave que celle du christianisme naissant. Une espèce de cosmopolitisme juif, d'origine juive, on ne sait pas où ça peut mener. Mais en tout cas, pas l'identité hébraïque d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. C'est-à-dire des gens cosmopolites, de religion ou de culture, tout ce que vous voudrez, juive, mais en tout cas que ça soit bien clair que ce n'est pas l'identité israélienne. C'est ça qui se fait en diaspora. Actuellement, il y a encore dans énormément de familles le mélange. Okay. Les familles de la population se considèrent comme la diaspora d'Israël, mais les communautés sont déjà dirigées ailleurs. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay. Bon. Simplement pour vous dire que cette cristallisation de polarité d'identité semble bien s'être faite comme elle s'est faite. Bon. Alors voilà, ne croyez pas qu'il y a ici une règle fatale et qu'on va renoncer à ces juifs-là. Vous avez remarqué combien de fois je voyage, okay, et je ne suis pas le seul. Bon, on fait ce qu'on peut, mais c'est la pêche à la ligne. Et quand je pense que mercredi soir prochain, je serai à Paris, Dieu préserve. Et alors là, qu'est-ce que mercredi soir? Dans quelques jours. Voilà, soit. Je vais avoir froid. Alors là, hein? Non, c'est pas pour le centrage, c'est pour autre chose, peu importe. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pas une fatalité. Parce que si c'était une fatalité, ça serait contraire à tout l'enseignement de la Torah qui a la liberté. Okay. D'autre part, il n'y a pas à prendre acte. Bon, eh bien, c'est comme ça, on renonce. Bien sûr qu'on ne renonce pas. Donc, le problème, c'est le suivant. Les phénomènes humains, comme tous les phénomènes dans le monde, sont conditionnés par des lois. Et en ce qui concerne les phénomènes humains, si la liberté joue, elle brise le conditionnement. Mais si la liberté abdique, alors elle se laisse aller au conditionnement et le conditionnement joue. Or, tout se passe comme si, effectivement, le peuple juif a abdiqué sa liberté devant les événements et c'est les conditionnements qui jouent. Pourquoi cette règle des 4/5 touche un tel et pas un autre tel? Ça, c'est le mystère de la destinée de chacun. On vous a un peu parlé ces derniers jours. Okay, vous avez compris le problème. Mais que la loi est en train de jouer, elle est en train de jouer. Mais pourquoi? Parce que la volonté a abdiqué, la liberté a abdiqué. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pourquoi il faudrait une prise de conscience. D'où pourrait-elle venir? J'en sais rien. Alors, on est bien obligé de prendre acte a posteriori que les choses se passent ainsi. Mais a priori, elles pourraient se passer autrement. Et je veux voir à vous citer l'enseignement qu'il y a à propos d'un verset d'Isaïe. Velo idach, mimeno nidach. Vous vous rappelez ce que vous avez raconté? Ce verset dit il n'y aura aucun repoussé, c'est-à-dire personne ne restera à l'extérieur. Et je me rappelle, au Talmud Torah, j'avais étudié ça, j'avais demandé à mon rabbin, mais ça veut dire quoi? Qu'ils reviendront tous? Alors il m'a répondu, oui, ils reviendront jusqu'au dernier qui reviendra. Ils reviendront tous. Qui? Ceux qui reviennent. C'est ça, tous. Vous avez compris? Et alors, Il m'avait cité cet enseignement qu'il y a un verset qui dit « Mezare Israël Ikabetzeb, celui qui a dispersé Israël les rassemblera, et qui les a dispersés avec la main, où il y a cinq doigts, qui les rappelle avec un doigt, c'est un cinquième. It's by looking. Okay? Dispersé sur les cinq cinquièmes, et il les rappelle avec un doigt. En plus, c'est joli. Okay? Yeah. Non, on ne dit pas à propos du Lubavitch, c'est un monsieur respectueux. À la rigueur, tu peux dire du Lubavitcher. En yiddish, ça veut dire le rabbin de Lubavitch. Donc, ok.
Je ne comprends pas comment il peut dire 3 millions de juifs parmi 3 millions de
séparés. Eh bien, quand il décidera, il le fera. C'est son problème. Simplement, j'ai cité ça pour vous dire qu'effectivement, s'il y avait des décisions de ce genre, je vais citer le rabbin Kaplan, et c'est vrai, il aurait amené 200 000 juifs et leur fortune. Et alors que maintenant ils ont des problèmes, comment faire avec la résidence tertiaire, secondaire, c'est dépassé. Mais non, c'était pour vous dire qu'effectivement nous sommes à un stade où l'Aliya est arrêtée.
Et une question arrive, il est prévenu pour le 13 novembre
80. Je ne sais pas si c'est une question naïve, je ne sais même pas Bichlal si c'est une question. Qu'est-ce que tu veux que je le prévienne? Attends, je vais réfléchir. Écoutez, la plus grande blague de l'histoire, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose le 13 novembre 80. N'oubliez pas, hein, à 10h du matin. Ce jour-là, tu me payes un couscous. Bon, alors, allez manger.